Mais c'est la grâce de Dieu qui a permis cela. Le titre « Vue globale de notre vie », parce que je crois, j'ai la conviction que dans toute notre vie, dans la globalité de notre vie, nous vivons des épreuves, des bénédictions et nous réagissons à cela. On réagit à ce qui nous arrive. Et si on veut regarder tout ce que l'on a vécu depuis que le Seigneur est venu dans notre vie et jusqu'à aujourd'hui, et si on veut regarder jusqu'où on veut aller, jusqu'où on veut se rendre et comment est-ce qu'on veut être, on a besoin d'avoir un plan de vie, on a besoin d'avoir un plan de notre vie, de ce qu'il s'est produit. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Corinthiens au chapitre 10. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Et ce texte-là a été mis expressément pour nous servir d'exemple. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombaient 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Que le Seigneur bénisse sa parole. La vie chrétienne est un mélange de bénédictions et d'épreuves. Des bénédictions que l'on accueille avec une grande joie, des épreuves qui nous semblent parfois nous détruire. Et on entend souvent des épreuves qui vont plus loin que qu'est-ce qu'on peut penser. Et on a de la misère à comprendre cela. Il y a certaines épreuves que c'est le résultat de notre négligence. Un jour, un jeune homme est venu et il me dit, « Le Seigneur me met dans l'épreuve. » Ah, j'ai dit, « Pourquoi? » Ben, il dit, « J'ai pris mon char, puis je n'étais pas assuré, je n'avais plus de permis de conduire, j'étais en boisson, puis je me suis fait arrêter. » OK. L'épreuve, c'est pas que tu te sois fait arrêter. C'est un soulagement pour tous les autres. Il y a des épreuves que c'est une évidence. Par contre, il y a des épreuves qui ne font pas de sens, on se demande pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi? Et c'est difficile de trouver, de répondre à ça, ce pourquoi-là. Pourquoi est-ce que je souffre physiquement? Pourquoi je dois supporter l'isolement? Pourquoi j'ai vécu une situation difficile vis-à-vis d'autres personnes? Pourquoi? On trouve plus de réponses à ces pourquoi-là dans nos réactions face à l'épreuve que dans l'épreuve elle-même. Dieu veut que l'on comprenne notre cœur. Dieu veut que l'on voit et que l'on réalise comment on est. Et en nous envoyant des épreuves, on est capable de comprendre à quoi sert l'épreuve, en autant qu'on est dépendant de lui. Je verrai mon cœur des réactions que j'aurai face à l'épreuve. On va avoir des épreuves toute notre vie. On en a eu depuis qu'on est tout petit, et jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Seigneur, on va vivre dans l'épreuve. Le peuple d'Israël est une belle image de ce que l'on vit aujourd'hui. Passer 40 ans dans le désert, c'est éprouvant. Vivre sur la terre comme on est aujourd'hui, c'est aussi une épreuve. Et ça peut être éprouvant parfois. Étant donné que l'on ne peut éviter les épreuves, elles devraient être là pour notre enseignement. On ne peut pas éviter, il n'y a personne qui peut éviter les épreuves. Si c'est un passage obligé dans notre vie, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les éviter ou est-ce qu'on va apprendre à vivre avec? Si on définit une épreuve, qu'est-ce que c'est? Une épreuve n'est pas nécessairement désagréable. Si je gagne 1 million de dollars demain matin, vous allez dire, waouh, c'est bien ça, hein? Je voudrais en avoir des épreuves à tous les jours de même. Sauf que on ne sait pas ce que ce million de dollars va faire dans ma vie. Et elle peut détruire ma relation avec Dieu. Et le million de dollars qui est censé être une bénédiction devient une malédiction dans ma vie. Mon beau-père, qui n'est pas sauvé, mais un jour on parlait de la loterie, ça fait longtemps de cela. On parlait de la loterie, il me dit, j'achète pas de billets de loterie. Ah non? C'est pourquoi? Il dit, j'ai peur de gagner. Ah, pourquoi? Parce qu'il dit, si j'avais beaucoup d'argent, c'est sûr que j'en donnerais à tout le monde. Hein? J'en donnerais à mon fils, à mon autre fils, à ma fille, et ainsi de suite. Moi, j'étais bien content. Je disais, oui. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'on fait avec beaucoup d'argent? Est-ce qu'on tourne bien ou on tourne mal? Est-ce qu'on sait comment administrer? Est-ce que cet argent-là peut devenir pire que de ne pas en avoir? Donc, ce qui est agréable, ce qui nous semble agréable, peut certainement être aussi une épreuve pour nous. Ce que j'aurai à vivre tous les jours est une épreuve. Que ce soit des circonstances de la vie, que ce soit des gens autour de moi, que ce soit de mes mauvaises décisions, tout peut devenir une épreuve. Tout dépend comment est-ce que c'est géré. Lorsqu'un événement se produit dans ma vie, lorsque quelque chose arrive, notre cœur réagit. Et on réagit tous, de différentes manières, mais on réagit tous. Si vous avez été maltraité, si vous avez été traité injustement dans votre travail, vous allez réagir. Soit avec force pour vous justifier, ou vous allez devenir de mauvaise humeur, plus personne ne va avoir le droit de vous parler pendant un bout de temps, ou vous allez chercher vengeance pour vous justifier. Mais vous allez réagir de toute manière. Et on va avoir tendance à réagir comme un pécheur, ce que nous sommes. Parce que nous sommes, même si nous sommes sauvés, pardonnés, nous restons des pécheurs et nous réagissons comme des pécheurs. C'est la même chose si nous héritons un montant d'argent. Nous pouvons avoir des réactions qui peuvent être contre la parole de Dieu, contre notre vie spirituelle, contre l'avancement du royaume de Dieu. Il suffit de rentrer dans une conversation où on parle de loterie. Qu'est-ce que tu ferais avec un million? Ah, moi, je ferais ci, je ferais ça. Je partirais à Las Vegas, puis je ferais tous tes casinos. Puis... Oh, wow! Peu importe l'épreuve, peu importe les événements que l'on vit, on va réagir. Si j'ai une promotion au travail, et que j'ai une bonne promotion, et qu'on s'y consacre à temps plein, et on abandonne sa famille, on abandonne l'Église, parce que c'est notre travail qui prend toute la place, c'est pas une épreuve, ça. C'est pas quelque chose qu'on fait vivre à notre vie spirituelle. On veut réagir avec les résultats et les conséquences qui vont avec. Le texte que je vous ai lu ce soir est une situation vécue par le peuple juif dans le désert. Tout ce qui a été dit, tout ce qui est expliqué, c'est le peuple qui a réagi à leur vécu dans le désert. Mais ce texte-là, Paul l'a utilisé pour les Corinthiens. Et il nous dit au verset 11, « À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » C'est aujourd'hui ça, la fin des siècles. Donc, ça s'adresse aussi à nous. C'est aussi pertinent. Et c'est même plus pertinent que ce que j'ai lu ce matin dans le journal. Car ça parle plus loin qu'à mon simple cerveau. Ça parle aussi à mon cœur. J'aimerais... qu'on regarde, si je réussis à l'avoir. J'ai-tu le contrôle? Oui? Non? Oui, voilà. J'aimerais qu'on schématise un peu le texte qu'on vient d'avoir. C'est des nouveaux mots, c'est des nouvelles expressions, mais qui vont prendre leur sens au fur et à mesure de l'explication. Vous avez la chaleur. La chaleur, c'est les épreuves de notre vie, ce que l'on vit. Il y en a certains qui vont reconnaître ça. Hein? Et oui, dans le cours de M. Mathieu Caron. La chaleur qui sont les épreuves. Et ces épreuves-là peuvent être des épines ou du fruit. Tout dépendant le déroulement qu'on va en faire. La chaleur, dans le texte qui nous occupe, c'est la vie dans le désert. Ça ne doit pas être agréable de vivre dans le désert. Ça ne doit pas être quelque chose qui était voulu, désiré. J'ai passé par un désert une fois, puis juste pour le fun, j'ai laissé ma voiture sur le bord de l'auto, puis j'ai marché dans le désert pendant un bout de temps. Je me suis tanné très vite. Ça n'a pas été une expérience vraiment « wow, j'ai marché dans le désert ». Non. Bon, c'est assez. Après 50, 100 pas, je dis « on va retourner à l'auto, l'acclimatiser, c'est bon. Puis... » Marcher dans le désert, c'est pas agréable. Mais qu'est-ce que les Israélites ont fait avec cette vie dans le désert? Pourtant, ils avaient la croix. Ils étaient accompagnés de Dieu. Les quatre premiers versets du chapitre 10 nous disent « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Être sous la nuée, c'est sous la protection de Dieu. Dieu les a protégés tout le long des 40 années dans le désert. Ils avaient une nuée qui se transformait en flamme le soir et ils avaient cette présence physique qu'ils voyaient. Ils disaient « Cette nuée-là, c'est ce qui me protège. Il n'y a rien qui va m'arriver. Cette flamme-là, c'est ce qui me protège. » Et ils pouvaient le voir. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qui est la manne. et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Les bénédictions du peuple d'Israël étaient constamment, à tous les jours, en face d'eux. À tous les jours. Ils vivaient des choses difficiles, mais ils étaient accompagnés. Ils étaient soutenus. Et Dieu était avec eux. Mais voilà ce que ce peuple-là a fait dans le désert. Et chapitre 10, verset 5, il dit, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Et 8b va nous dire, il le livra de sorte qu'il en tombèrent 23 000 en un jour. Et 9b qui dit, « Qu'ils périrent, ils tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Et 10 qui disait, « Quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Ils sont tous morts dans le désert, sauf deux, Josué et Caleb. Ils ont tous, à quelque part, été jugés, malgré les bénédictions que Dieu avait mises sur eux et qui étaient visibles. Ils ont tous, à quelque part, manqué. Et c'est cet exemple-là que Paul veut nous emmener. Ils ont eu un mauvais comportement. Le comportement du chapitre, ils sont devenus idolâtres. Ils se sont livrés à la débauche. Ils ont tenté le Seigneur. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Ils ont eu un mauvais comportement qui les a emmenés à voir, à attacher leur cœur à des mauvaises choses. Ils ont eu des mauvais désirs. Et ils sont devenus idolâtres. On a entendu ce matin être idolâtre, c'était quoi? Et je le reprends ce soir, car c'est excessivement important. Voilà la condition. Voilà ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Et voilà de quoi ils sont morts. Mais ils avaient le choix. Ils pouvaient mettre leur confiance en Dieu. Ils pouvaient se concentrer sur Christ, sur le rocher qui les suivait, car le rocher les a suivis. Ils pouvaient voir, ils pouvaient boire, ils pouvaient manger. Ils ne manquaient de rien. Ils avaient de quoi à résister à la tentation, comme nous aujourd'hui. Ils ont été, et nous sommes, nous aujourd'hui, encouragés à résister à la tentation, à se concentrer sur Christ, le rocher des siècles. J'aimerais m'attarder sur les quatre points qui ont apparu au début, la chaleur, les épines, les fruits et la croix. La chaleur, je disais que c'était les épreuves ou les bénédictions qui arrivent dans notre vie. Ce que l'on vit présentement, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa provenance. Certains sont malades, d'autres en dépression, manque de travail, manque d'argent, ou une série de petits problèmes qui n'en finissent pas. Vous savez, l'auto brise, l'autre auto brise, le chauffe-eau pète, le poêle ne fonctionne plus, et ça continue, et ça continue. Et c'est des problèmes physiques, mais vous avez aussi des problèmes de maladie qui n'arrêtent pas. Des situations permanentes, des situations temporaires. On peut même placer les bénédictions de Dieu dans cette classe-là des chaleurs, dans cette catégorie. Si nous réagissons hors de la volonté de Dieu, une bénédiction peut servir à la gloire de Dieu. L'épreuve aussi peut servir à la gloire de Dieu. Le peuple juif est l'exemple de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez les épines. Les épines, c'est nos réactions face à la chaleur. Ce qui nous vient naturellement dans les temps d'épreuve. L'amertume que l'on garde dans notre cœur, c'est naturel. Le doute qu'on a envers Dieu sur sa fidélité lorsqu'on vit des choses difficiles. La négligence à l'adoration et au service. Le déni, la fuite, le découragement. Tenter de régler les situations par nous-mêmes. Voilà les épines. Elles peuvent être aussi, les épines, être une réaction à une entrée d'argent subite. Waouh, je viens d'avoir un beau gros montant d'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais avoir un mauvais comportement? Ou si je vais soumettre ça à la croix? Les épines ont été, dans le texte, au verset 5, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et au verset 7, ils sont devenus idolâtres. Et au verset 8, ils ont débauché, ils ont tenté Dieu, ils ont été mécontents, ils ont murmuré. Et tout cela a eu comme conséquence la mort. Aujourd'hui, les épines peuvent nous emmener à la mort. Mais nous vivons sous la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas nécessairement que nous mourions de nos épines, mais il veut que l'on comprenne des choses. Et il veut que nous changions notre comportement. Tout ça, ce comportement-là, amène dans notre cœur des racines d'amertume. Vous voyez le moins dans le cœur que vous voyez du côté des épines? Et notre cœur qui s'attache aux mauvaises choses. Être idolâtre. Être idolâtre lorsqu'ils sont revenus de leur ancienne, ils sont revenus à leur ancienne manière de vivre. Ils ne les ont pas rejetés, ils ont gardé les vieilles habitudes. Je me rappelle, dans ma vie chrétienne, à un moment donné, où on parlait des copains qu'on avait accepté le Seigneur aussi dans le temps, mais on revenait sur le passé et on parlait des parties qu'on se faisait quand on n'était pas sauvé. Puis ça sonnait fou à mon oreille, Je me disais, il me semble que je devrais arrêter d'en parler de cela. C'est le passé, c'est dans le temps que j'étais perdu, loin de Dieu. Ça n'a plus la même valeur. Être idolâtre, et le texte nous dit, ils ont été réduits à satisfaire leur sens primitif. Le peuple s'assit au verset 7 pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et c'était tout ce qui comptait. Manger, boire et se divertir. En négligeant la partie spirituelle qu'ils avaient à développer. Pour les Corinthiens, ça veut dire de fraterniser avec les fausses divinités, Aphrodite, qui sont en réalité des démons. Dans la ville de Corinthe, il y avait un temple qui était renommé. Ils n'avaient plus d'affaires, là. Mais les Corinthiens pensaient qu'ils pouvaient côtoyer les gens, qu'ils pouvaient aller dans le temple de temps en temps sans que ça les influence. Mais ce n'est pas vrai. Toutes nos réactions, tout ce que l'on peut faire a des conséquences. Ils nous enseignent quelque chose. Et si on réagit mal, on développe quelque chose dans notre cœur. Pour nous, nous sommes à la fin des siècles. Qu'est-ce que l'on adore? Ça fait longtemps qu'on a compris le principe des statues, qu'il ne faut pas en avoir. Il n'y en a pas aucune ici. Et lorsqu'on va, à l'occasion, j'ai été avec mes jeunes filles à l'église catholique et voir comment ça se passait. Même, on était chrétiens, je dis, je vais te montrer comment ça se passe. Et on est allé dans l'église, on a vu les statues. Je disais, pourquoi il y a des statues? On fait longtemps qu'on a compris que les statues, ça ne sert à rien de se mettre à genoux devant ça, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que l'on adore? Les idoles, c'est ce qui touche notre cœur. Ézéchiel dit, Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Voilà une idole. C'est ce qui touche notre cœur. M. Keller avait une bonne manière de définir les idoles dans notre vie. Pensez à n'importe quoi. Posez-vous la question, si je viendrais qu'à perdre ce à quoi je pense et que ça crée une panique en moi, c'est une idole. Est-ce que je serais paniqué si je perdais ma voiture? Est-ce que ça serait une si grosse perte que ça? C'est peut-être ça ton idole. Ça peut être une chose matérielle, une idole, mais ça peut être une chose qui est complètement non matérielle, une idée. Si je perdais ma force, est-ce que ça serait difficile dans ma vie? Est-ce que je vivrais ça comme un deuil épouvantable? Si je mettais Dieu et mon épouse et que j'aurais un choix à faire, Dieu ne me demandera jamais de faire ce choix-là. Mais si j'avais Dieu et mon épouse à mettre en balance, quel que je choisirais? Est-ce que mon épouse pourrait être mon idole? Mais c'est Dieu que je choisirais. Et Dieu va me donner mon épouse. Ce qui s'est attaché à mon cœur devient mon idole. Est-ce que j'en ai une dans ma vie? Est-ce que je peux être idolâtre? Et cette idolâtrie-là va m'amener à avoir un mauvais comportement. Être débauché. Dans sa nature pécheresse, l'homme qui ne cherche pas la volonté de Dieu s'égare et peut aller même jusqu'à la débauche. Au temps des Corinthiens, l'idolâtrie et la débauche étaient pas mal la même chose. Parce que dans le temple d'Hémaphrodite, il y avait des prêtresses qu'ils appelaient, c'était carrément des prostituées qui se promenaient et qui offraient leur service dans la ville. Donc, la débauche, l'idolâtrie, ils rendaient un culte à leur idole en se prostituant. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes mœurs. On c'est plus la même chose, c'est vrai. Par contre, nous avons le même cœur. Et ce que nous développons dans notre péché peut conduire même jusqu'à la débauche. Et il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ces hommes ont tenté Dieu. Celui qui tente Dieu, c'est celui qui vit les bontés de Dieu, mais qui ne les reconnaît pas. Qui utilise ce que Dieu donne pour sa propre satisfaction, mais pas celle de Dieu. Je vais faire ça tant que ça va faire mon affaire. L'exemple d'Ananias et Saphira est évident dans Acte 5. Ananias et Saphira avaient vendu un terrain et ils donnaient une partie de l'argent. Ça, jusque-là, ça va très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'ils disaient que c'était tout l'argent qu'ils avaient eu, qu'ils avaient donné. Qu'est-ce qu'ils ont cherché à avoir? Ils ont cherché à paraître plus spirituels qu'ils ne l'étaient, plus généreux qu'ils ne l'étaient, tout en gardant une partie. Dieu n'aurait jamais permis que Ananias et Saphira meurent s'ils avaient dit, on s'en est gardé une partie pour nos enfants et on vous en donne une partie. Et ça aurait été très bien. Mais ils ont menti. Ils ont tenté Dieu. Et ils ont tenté l'Esprit. Et ils en sont morts. Le psaume 95, verset 8 nous dit, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils virent mes œuvres. Tenter Dieu, c'est voir qu'est-ce que Dieu fait avec nous, qu'est-ce que Dieu nous donne, et n'en demander encore plus, ne pas apprécier ce que Dieu nous donne. Ici, c'est vraiment pas difficile d'apprécier ce que Dieu nous donne en Amérique du Nord. Nous sommes bénis, surbénis. Nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Nous vivons dans l'abondance. Ne tentons pas Dieu. Et finalement, le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu. Murmurer, on sait ce que ça veut dire, c'est d'être mécontent de la volonté souveraine de Dieu. C'est de ne pas être content de ce que Dieu veut faire ou Dieu fait avec moi. Dans quel aspect, où est-ce qu'il me place? Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Naturellement, les murmures viennent lorsque on est mécontent, lorsque on croit être traité injustement selon notre vision charnelle. Dans l'Ancien Testament, et sans qu'on y tourne, il y aurait trop d'endroits, plusieurs places la rébellion s'est installée dans le cœur des hommes. Plusieurs places où les hommes ont chialé, murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu lui-même. Ils ont murmuré contre le peuple. Et Moïse a murmuré contre le peuple. Et le peuple a murmuré contre Moïse. Et Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse. Et c'était une gang de murmureurs. Nouveau mot. Vous savez, le murmure est pris au sérieux par Dieu. Et de ces murmures-là, il y en est mort beaucoup. Car Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Nos murmures déshonorent Dieu, tandis que notre contentement le glorifie. Il faut faire excessivement attention à ce que l'on dit, à ce que l'on dit à propos de Dieu, à propos de ce que Dieu a mis, a implanté, à propos de l'autorité qui vient de Dieu. Lorsqu'on prend une contravention parce qu'on était trop vite, naturellement, on est prêt à dire « Allez, ding, ding, de, ding, ding. » C'est l'autorité que Dieu a placée. On doit juste accepter qu'il nous les donne. Il dit, c'est mon erreur. Et il fait son travail. Lorsque j'irai braconner et que Benoît va venir et il va me donner une contravention, je devrais, deux contraventions, je devrais accepter comme étant l'autorité qui était placée là par Dieu pour respecter. Je ne devrais pas murmurer. Je ne pense pas que le sol, comme dans Corée, Dathan et Abiram, ces hommes-là ont disparu dans le sol. Le sol s'est ouvert et c'est 14 700 personnes ont tombé dans le trou, ont tombé morts, ils sont tombés vivants dans le séjour des morts, ensevelis, à cause du murmure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le sol s'ouvre sous nos pieds lorsqu'on murmure. Mais il reste que le principe est le même. Je ne crois pas non plus qu'il y ait une plaie qui apparaisse subitement lorsque l'on murmure. Mais le principe est toujours le même. Nous sommes sous la grâce et sous l'amour de Dieu. Mais rien de ce que l'on peut vivre ne mérite que l'on murmure contre le plan de Dieu. Rien. Peu importe ce qui va arriver, rien ne mérite que l'on murmure contre le plan de Dieu. Nous avons le choix, comme le peuple d'Israël avait le choix, d'aller vers les épines ou d'aller vers la croix. D'aller vers la croix pour se concentrer sur le rocher des siècles, réaliser ce que Dieu avait fait pour eux, afin qu'ils puissent porter du fruit. Mais la croix, qu'est-ce que c'est la croix? La croix, et il y a une quantité impressionnante de versets qui démontrent la fidélité de Dieu. Dieu n'a jamais manqué à sa fidélité. Les alliances que Dieu a faites n'ont jamais manqué. des millions de témoins montrent que Dieu a pris soin d'eux. Dieu n'a jamais manqué. Et c'est cette phrase de Polycarpe qui disait, lorsqu'ils ont demandé, les autorités ont demandé de blasphémer Christ, il a répondu, « Voilà 86 ans que je sers Christ, il ne m'a jamais fait de mal. Comment est-ce que je le blasphémerais? » Voici la croix. Colossiens 2,10 nous dit que nous avons tout pleinement en lui, tout pleinement en Christ. Et rien de ma sagesse charnelle, rien de ma force humaine, rien de mes réactions inchangées vont rajouter quelque chose. Nous avons tout pleinement en lui. Voilà la croix. Voilà encore le travail de la croix, une promesse que je dois prendre au sérieux. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Même dans ce verset-là, il ne l'enlève pas l'épreuve, mais il vous donne le moyen de la supporter. C'est une promesse énorme. C'est une promesse que l'on doit apprendre par cœur à tout instant de la vie qui est utilisée. Je ne dois pas négliger cette promesse-là. Comment est-ce que je pourrais murmurer sur la fidélité de Dieu? Comment je ferais ça? Comment est-ce que déjà une idole a pris soin de moi comme ça? Dieu prépare le moyen que je puisse supporter l'épreuve. Et c'est à cette promesse-là que l'on doit s'attacher. Voilà la croix. Quels sont les fruits? Les fruits, c'est réaliser la dépendance que nous avons en Dieu. C'est être béni afin de pouvoir bénir les autres autour de nous. Éprouver, être conscient que la force de l'Éternel est en nous, elle est avec nous. Si Dieu est avec moi, qui pourrait être contre moi? Mais les fruits, c'est de le réaliser cela. De le mettre dans notre vécu de tous les jours, dans nos épreuves, dans nos bons coups, dans nos mauvais coups. Se regarder comme un miroir demande du courage. Se regarder dans un miroir, de voir les défauts et de vouloir les corriger, ça demande du courage. Mais voilà ce que Dieu nous demande. Ce matin, notre frère nous parlait qu'une des raisons de l'assurance que Dieu nous donne, c'est dans le changement de vie. Bien, pour changer, il faut réaliser ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Est-ce que j'ai le mauvais comportement? Est-ce que je veux changer les choses? Examinons-nous avec sérieux. Examinons-nous comme il faut et demandons à Dieu de nous révéler ce que nous avons besoin de changer. C'est ce que Dieu nous demande. Révèle-moi ce que j'ai besoin de changer. Révèle-moi mes mauvais comportements. Révèle-moi ce que j'ai besoin de mettre à la croix à tous les jours de ma vie. Ne croyons pas être debout dans nos comportements. Ah, j'ai fait ça comme fou. Ne croyons pas être debout dans nos comportements. Mais soyons attentifs au travail de l'Esprit dans nos cœurs. Gardons-nous alertes à ce que Dieu désire de nous. Voilà. Quelle est votre chaleur? Vous en avez certainement une. Une épreuve. Quelque chose les épreuves, les bénédictions de ma vie, quelque chose que je vais vivre. Quelquefois, quelque chose d'anodin pour vous peut être important pour un autre. Il y a quelque temps, j'aime faire de la moto. Il y en a quelques personnes ici qui savent, j'ai une moto, puis j'aime ça faire de la moto. Mais le Seigneur a permis que ma moto brise mi-juillet, je crois. Plus de bonheur que ça. Presque au début juillet. Ce n'est pas une motoneige que j'ai, c'est une moto. Et j'ai essayé par tous les moyens d'aller l'avoir le plus rapidement possible, puis il n'y a rien qui se faisait avant un mois et demi. Un mois et demi. Fait, je dis, je vais la faire, mais la réparer moi-même. Je l'ai réparé moi-même, ça a pris bien moins de temps. Sauf que je ne suis pas capable de la finir. Il faut que j'attende absolument d'aller chez le concessionnaire. Puis en bout de ligne, ça va faire un mois et demi pareil. Pour certaines personnes, oh, c'est rien qu'une moto, c'est un objet de luxe. Il n'y a pas d'affaire à se plaindre. Sauf que c'est une épreuve. C'est petit, mais c'est une épreuve. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais-tu en faire des épines? Je vais-tu avoir un mauvais comportement? Je vais-tu grommeler toute la saison en disant je ne peux pas faire de moto, puis je trouve ça plate. Puis... Pourquoi, Seigneur, t'as permis ça? Et ces mauvais comportements-là qui vont se développer vont faire que je vais m'attacher aux mauvaises choses, que je vais toujours chercher à trouver une solution. Ou si j'ai décidé d'aller à la croix, me concentrer sur Christ. Seigneur, le temps que tu me donnes à ne pas faire de moto, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, Seigneur? Si je n'ai pas de moto, c'est peut-être parce que je ne la mérite pas. C'est peut-être parce que tu as d'autres choses à me montrer. Puis garde-moi de résister à la tentation de chercher par tous les moyens de me sauver de cela. Que je puisse le vivre sereinement, avec la croix, avec tes promesses, avec ta personne en dedans de moi. Peu importe ce qui va m'arriver, je viens de vous mentionner une petite épreuve. C'est anodin. Il y en a parfois des grandes, des grosses épreuves, dures à porter. Qu'est-ce que je fais avec? Je vais à la croix, ou si je fais pour porter du fruit, j'ai un mauvais comportement et je porte des épines. C'est à cela que nous sommes placés aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais faire? Des épines? Ou si je vais à la croix pour porter du fruit? Seigneur Dieu, les épreuves, c'est toi qui les as faites, Seigneur. Les bénédictions aussi, c'est toi qui les as faites. Seigneur, tu as permis ces choses, Seigneur, pour mon édification, pour ma sainteté, pour ma sanctification progressive. Tu as permis ces choses, Seigneur, car ton premier désir, c'est que je devienne comme ton Fils, que je devienne semblable à l'image de ton Fils. Seigneur, je veux m'arrêter à cela. Je veux accepter tout ce que tu vas faire devant moi, tout ce que tu vas faire pour moi, que ce soit bien, que ce soit mal, que je le vois bien ou que je le vois mal, que j'ai une vision, Seigneur, que j'ai ma propre vision de cela. Je veux m'arrêter à ce que toi, tu désires de moi dans ces épreuves et dans ces bénédictions. Je veux me rapporter à toi. Je veux que ma vie, Seigneur, soit tournée vers toi, vers ta croix, vers tes bénédictions, vers ce que tu veux me donner à travers cela. Révèle mon cœur afin que mon comportement change et que je progresse jour après jour sur les épreuves, sur les bénédictions qui sont dans ma vie. Et merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné cette possibilité de me concentrer sur Christ et sur l'œuvre de Christ à la croix afin que je puisse porter du fruit pour toi. Voilà la plus grande des missions qu'un homme peut recevoir. Porter du fruit pour toi. Permets, Seigneur, que je puisse le faire de plus en plus, jour après jour, pour ta gloire et pour ton nom. Amen.